France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui, une fois de plus, vient d'actionner la machine à remonter le temps. Dans son dernier livre, Les cigognes sont immortelles, Alain Mabankou nous ramène au Congo en 1977, lors de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Il le fait dans un livre où la petite histoire, celle de sa famille, rejoint la grande, celle du pays, un pays dont le destin le désespère. On en parlera avec lui. On parlera aussi des États-Unis où il est désormais établi, et de la France, son autre pays d'adoption, car il est comme ça, Alain Mabankou, comme un pigeon voyageur. On profitera d'ailleurs ce soir de son regard d'oiseau migrateur pour commenter l'actualité de la semaine, actualité française, avec toujours à la une la crise des gilets jaunes. Au programme également de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Marianne Crimbaud, un focus sur la question de la restitution aux pays africains des œuvres d'art accumulées pendant la colonisation. Et des bonnes ondes signées Stéphane Capron ce soir. Reportage sur un bus qui sillonne la région Centre-Val de Loire pour faire découvrir l'opéra aux enfants. À 19h20, au téléphone sonne cette question: peut-on apprendre à écrire des livres? Alain Mabankou nous dira évidemment ce qu'il en pense. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Alain Mabankou.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Écrivain, prix Renaudot 2006 pour Mémoire de Porc-Épic. Aujourd'hui, vous publiez donc au Seuil Les cigognes sont immortelles. C'est un roman qui nous plonge dans l'histoire de votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Une histoire, je le disais, qui se déroule en mars 1977, lors de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Une histoire qui se passe à Pointe-Noire, chez vous, la deuxième ville du pays, la grande ville pétrolière au bord de l'Atlantique, la ville où vous avez grandi. On y retrouve des personnages connus, maman Pauline, votre maman, papa Roger, celui qui vous a élevé. Et vous, le petit Alain, 11 ans à l'époque, c'est ça, mais il s'appelle Michel dans le livre, j'ai bien lu, c'est le deuxième prénom, c'est ça?
C'est le deuxième prénom, et j'ai déjà parfois expliqué pourquoi je n'ai pas beaucoup utilisé le prénom de Michel, parce que dans ma langue natale, la langue de ma mère, Michel veut dire petite banane, et à l'école, on m'appelait toujours petite banane. J'avais une aversion pour ce prénom de Michel, et désormais, j'essaye d'utiliser ce prénom pour redorer le blason de tous les Michel, qu'il soit du Congo-Brazzaville ou de France.
Voilà, réhabilitons les Michel. Ce livre, il parle aussi bien de la vie quotidienne à Pointe-Noire que du destin du pays, un destin qui va bouleverser votre famille puisqu'elle sera rattrapée par l'histoire avec un grand H, mais je ne veux quand même pas non plus en dire trop à ce stade. Ce livre, en tout cas, il nous rappelle que vous avez grandi dans un pays à l'idéologie marxiste soviétique. C'est la voix de la révolution congolaise qui annonce un beau jour que l'impérialisme aux abois a lâchement attenté à la vie du dynamique chef de la révolution. Mais pour les détails, il va falloir chercher ailleurs que sur la radio nationale, Alain Mabankou.
Toujours, parce que la radio est un personnage très intéressant dans ce livre. Lorsque nous vivions en Afrique, lorsque nous passions notre enfance, on avait l'impression que le monde était fermé. Et dès que papa arrivait, ouvrait la radio, allumait la radio. Voilà, on avait l'impression qu'on ouvrait une petite fenêtre et puis nous voyions comment le ciel n'était pas toujours aussi bleu qu'on le croyait et que le monde allait très mal. C'est pour cela que ce livre, ce roman, laisse à la radio une place très très importante.
Alors la radio nationale, elle déverse sa propagande, elle donne pas les infos qu'on attend, elle préfère au moment de l'assassinat de Marien Ngouabi, parler de Jacques Chirac qui va devenir maire de Paris. C'est plus important que de dire vraiment ce qui se passe dans le pays. Alors qu'est-ce que vous faites avec papa Roger? Vous écoutez la voix de l'Amérique pour essayer d'en savoir un petit peu plus, c'est ça?
Il faut toujours écouter deux types de radio pour avoir des avis partagés. En l'occurrence, au Congo-Brazzaville, il y avait la voix de la révolution congolaise, c'est-à-dire la voix du président de la République, de son gouvernement, de sa femme et de son chien. Et puis il y avait la voix de l'Amérique qui venait de très loin, qui nous donnait des nouvelles. Par exemple, le 18 mars 1977, on arrête les informations, on arrête tout, on n'a que la musique soviétique. Et puis tout à coup, trois jours après, on n'est pas au courant qu'un président est mort. On va nous tracer la biographie de Jacques Chirac. Imaginez, en plein cœur de l'Afrique, au Congo-Brazzaville, ma mère, qui n'est pas allée à l'école, pensait que Jacques Chirac, c'était celui qui venait d'assassiner le président de la République. Non, c'est parce que ce 20 mars 1977, eh ben, il y avait l'élection pour la première fois d'un maire de Paris, l'élection au suffrage universel, et c'était Jacques Chirac. Donc nous avions eu droit à ses cheveux gominés, à sa petite cigarette, à sa taille dégingandée, à sa démarche très sûre. Et peut-être qu'aussi que si j'avais écrit ce livre, c'est parce que le plus souvent quand je venais à Paris, je croisais souvent Jacques Chirac passer du côté du boulevard Saint-Germain dans un magasin tropical où il y a des boudins antillais. Je ne donnerai pas le nom parce qu'ils n'ont pas payé. Donc je passais souvent là et je le voyais fatigué. Et ça, ça m'avait fait mal au cœur. Et j'ai pensé, en écrivant ces pages, précisément lorsque je parle de Jacques Chirac dans le livre, en 1977, eh ben, je repensais à ce moment-là. Et peut-être l'inspiration aussi venait avec une intensité très, très, très douloureuse.
Alors, Alain Mabankou, le président Marine Gouabi, il faut le pleurer, hein.
Il faut le pleurer.
Voilà. Et quand on est petit et qu'on n'a pas forcément envie de pleurer le président, qu'est-ce qu'on fait? On met du piment dans les yeux, c'est ça?
On met du piment dans les yeux. Mais ça, c'est une tradition que nous avons héritée de nos parents, c'est-à-dire que quand vous aviez un homme qui était mort et que la femme n'arrivait pas à avoir de l'inspiration pour pleurer son mari, parce que soit le mari était une crapule, c'était un macho, il a fait subir les 7 plaies d'Égypte à la pauvre épouse, l'épouse est tellement contente de la disparition de ses cadavres ambigus, il n'est pas inspiré de pleurer. Et donc du coup, eh ben, il y avait une petite réunion des vieilles dames qui disaient « bon, on va te mettre des petits piments dans les yeux ». Donc le piment servait à faire pleurer les veuves qui n'arrivaient pas à avoir de inspiration pour accompagner vers la dernière demeure leur mari.
Alors Alain Mabankou, vous n'aviez que 11 ans quand cet épisode est intervenu, mais il vous a marqué. Mmh. Vous avez même porté tous les gamins un brassard noir. Hein,
ah oui, nous tous on a porté les deux. Brassard noir, on s'est rasé les cheveux, il fallait pleurer le président de la République.
Ça plaisante pas. Dans ce livre, en tout cas, on retrouve tous les maux du Congo, l'omniprésence de l'armée, les tensions entre le Nord et le Sud, les tensions entre ethnies, des maux qui, 40 ans après, n'ont pas disparu.
Ils n'ont pas disparu. C'est pour cela que, en écrivant ce livre, j'avais presque même le sentiment d'une actualité très, très précise. Je pensais que nous avions, nous autres originaires des États africains, qu'on avait acquis l'indépendance, qu'on était dans une liberté totale, mais les mots qui sont décrits dans ces livres montrent que les indépendances n'ont été que des formulaires que les États africains avaient remplis avec cette sorte d'allégresse et de joie qui tout de suite avait disparu. Et d'ailleurs, le grand écrivain ivoirien Amadou Kourouma parlait toujours des soleils des indépendances. Le principe d'un soleil, c'est qu'il finit par se coucher. Hein, et que mais la nuit aussi finit toujours par disparaître pour laisser place au soleil. Sauf que les soleils des indépendances s'étant couchés, l'Afrique attend toujours que se lève un certain jour. Mais à force d'attendre, comme on dit chez moi, le crapaud a raté la queue.
Et puis là, ça commence à faire long. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, Alain Mabankou. On va passer à l'actualité de la semaine. C'est le principe de cette émission, actualité française. Je le précise, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Marie-Annick Rimbaud cette semaine. Évidemment, ici en France, c'est la mobilisation des Gilets jaunes qui a encore dominé l'actualité.
J'ai 52 ans, je suis secrétaire. Je travaille, mon mari travaille aussi. On est non imposable. C'est vous dire le salaire qu'on a. Et avec les taxes que Macron et toute sa clique nous mettent, comment voulez-vous que nous, petits Français, entre guillemets, on s'en sorte? On n'arrive pas à vivre, on survit. Moi aujourd'hui je suis là, c'est pour mes enfants, c'est ce qui me donne la rage aujourd'hui.
Près de 300 000 gilets jaunes samedi dernier sur les routes et les ronds-points pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Mais pour l'exécutif, pas question de changer le cap. Édouard Philippe est allé le dire dimanche soir à la télévision.
Moi, j'entends ce que disent les Français, mais je vois le cap, je n'en change pas, et j'essaie de...
Vas-y, change pas de cap, t'as raison, change pas de cap.
Lui, il veut pas lâcher, mais on sera plus têtu que lui, et je pense qu'on est nombreux.
Là, on reste gentil, on n'est pas là pour casser, on veut pas ça.
Mais après, le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, pour que ça bouge, eh ben, il faut de la casse.
Et de la casse, il y en a eu. Il y a même eu des victimes, 2 morts et des centaines de blessés. Sans parler des actes racistes, homophobes et des intimidations sur certains barrages, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une dérive totale. On a une radicalisation.
D'ailleurs, sur les barrages, des gilets jaunes commencent à s'interroger sur la nature de leurs actions.
Il faut arrêter de bloquer ceux qui pensent la même chose que nous, parce qu'on va se les mettre à dos.
Ce genre de mouvement, eh ben, il aboutira à rien. Vous ne pouvez pas changer les choses en bloquant des gens comme ça.
Tout a augmenté, monsieur, vous trouvez ça normal?
Il y a d'autres solutions.
Bah, si vous êtes d'accord avec Macron, alors on sait
quand même. Je suis pas d'accord avec Macron, je n'ai même pas voté Macron.
J'entends la colère de ceux qui ne se sortent pas de leur quotidien, à qui on doit apporter des solutions, et je prends ma part de responsabilité dans cette colère. Je n'ai pas changé les choses assez vite, et je n'ai pas fait comprendre assez clairement où je voulais emmener les gens.
Emmanuel Macron n'a pas l'intention de changer de politique, alors l'opposition en profite pour s'opposer à l'image de Laurent Wauquiez.
Ma conviction, c'est que le président ne peut pas tourner le dos à cette France. C'est leur responsabilité de prendre les décisions pour sortir de l'impasse.
Mais comment sortir de l'impasse face à un mouvement sans représentant attitré?
On est notre porte-parole nous-mêmes. On n'a pas besoin de leader.
Ben normalement, on devrait monter à Paris ce week-end, au plus proche de Monsieur Macron.
Ah ouais, mais il faut rien dévoiler en fait. Le secret, voilà. Reste secret.
Il y a trop de suspense.
Bon, ça commence quand même à se savoir. À l'autre bout de l'échelle sociale, la chute d'un des hommes les plus puissants de la planète, le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, arrêté à Tokyo pour des raisons qui restent à éclaircir. Les autorités françaises, particulièrement inquiètes pour la firme Losange, se sont voulues rassurantes, à l'image du ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Il y a une gouvernance à la tête de Renault. Renault est dirigé et bien dirigé.
Les Japonais accusent Carlos Ghosn d'avoir dissimulé des milliards de yens au fisc nippon, des millions d'euros, ce qui ne laisse pas d'étonner les ouvriers de Renault.
On est tout le temps surpris quand on voit des gars bourrés d'oseille et essayer quand même de tricher, alors que nous, on n'arrête pas de nous taper dessus. Nous dire, ouais, faut serrer la ceinture pour faire tourner l'économie, pour... Non, faut arrêter là.
On laissera la conclusion de cette semaine noire pour l'automobile à Isabelle Autissier, la présidente du WWF France, pour qui il est grand temps de sortir du tout voiture et surtout du tout pétrole.
C'est plus possible que le pétrole aujourd'hui soit un problème économique, en particulier pour les gens les plus défavorisés dans ce pays, mais soit aussi une bombe climatique qui va nous exploser entre les mains. Donc il faut sortir du pétrole le plus vite possible.
Et comme disait hier soir Nicolas Hulot, combiner les problèmes de fin de mois et de fin du monde. Voilà pour ce bref résumé de l'actualité de la semaine en France. Alain Mabankou, un commentaire sur, sur ce qu'on vient d'entendre ?
Je pense que nous assistons aussi peut-être à... au revers pratiquement de la médaille, quand vous avez été porté par un certain enthousiasme, eh bien, cet enthousiasme-là est ressenti par le peuple comme pouvant permettre la résolution de la plupart
vous
des problèmes.
Vous parlez de l'élection d'Emmanuel Macron ou
oui,
cet enthousiasme, c'est ça?
Oui, l'élection, l'enthousiasme, et puis tous les problèmes qui finissent par s'accumuler. Je vois que le président Macron reconnaît qu'il fait un peu de patinage un peu sur ce qu'il avait prévu avant, mais c'était à attendre. Parce que, vous savez, moi j'ai vécu 17 ans en France. J'ai entendu toutes les promesses des politiciens. J'ai entendu toutes les j'ai vu toutes sortes de caresses qu'on a fait au peuple. Mais à un certain moment, le peuple finit par se réveiller et à demander l'addition immédiatement parce qu'il y a toujours la demande de la justice vis-à-vis du peuple. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait regretter, c'est que de temps en temps qu'il y ait des dérives. Mais d'un côté, quand on est dans la revendication, ce sont parfois ces dérives qui finissent par alerter le gouvernement qu'il faut traiter le problème et qu'il ne faut pas laisser les choses dégénérer parce que nous sommes censés être dans une nation civilisée et il faut aussi prendre des mesures civilisées.
Alors j'ai vu, vous disiez à la Mabankou, 17 ans en France, j'ai vu que pour ce qui est de vos opinions politiques, vous avez commencé chez les jeunes RPR, ça c'était quand vous étiez étudiant en droit à Dauphine, c'est vrai ça?
Moi j'ai été étudiant, j'ai tout fait en France, hein, sauf les extrêmes.
Vous souteniez Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy en 95.
J'étais étudiant en droit à l'université de Paris Dauphine, j'avais comme professeur, certains sont encore là avec nous, Alain Minc, d'autres ont disparu comme François Desvirieux ou encore d'abord Raymond Barre, hein, l'ancien Premier ministre, étant des jeunes de Dauphine, l'université dans le 16e arrondissement. On était à l'époque des jeunes petits militants de RPR. Mais après, par la suite, j'ai aussi été communiste. Par la suite, j'ai aussi été à gauche. Donc moi,
Vous avez voté Hamon et puis Macron, hein, finalement,
Voilà, j'ai voté dans les dernières élections. J'ai voté d'abord Hamon, qui a pris une gamelle. Puis j'ai voté Macron. Et puis j'avais voté Jacques Chirac pour le barrage contre le Front National. Je pense que moi, j'ai toujours voté sur les idées que j'estime défendre. Je n'aime pas avoir une certaine couleur typée ou quelque chose. Quand une idée est intéressante, je la défends. Et quand quelqu'un ne défend plus ses idées, ben, je change aussi de choses. Je ne suis pas quelqu'un qui doit être emmagasiné dans un parti.
Embrigadé.
Embrigadé.
Voilà. On vous a entendu il y a quelques jours prononcer un discours officiel aux côtés d'Emmanuel Macron. C'était à Reims pour les cérémonies organisées pour le centenaire de la Grande Guerre. Vous avez parlé au nom des Africains venus défendre la France à la Mabon.
Oui, parce que on a toujours tendance à oublier que, comme je l'avais dit dans une leçon inaugurale au Collège de France, que l'histoire de France est cousue de fils noirs. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont venus à la rescousse de l'Empire qui étaient secoués et menacés. Et parmi ces gens qui sont venus à la rescousse, il y avait ce qu'on appelait alors, à cette époque-là, l'armée noire. Plus communément, on dit les tirailleurs sénégalais qui ont été ramenés à l'époque avec la sollicitation de Georges Clemenceau, avec la bénédiction pratiquement du député d'origine sénégalaise Blaise Ndiagne. Donc ces gens sont venus défendre la France, ils sont venus défendre la ville de Rennes, et la ville de Rennes leur avait dédié à ce moment-là...
Leur avait dédié à ce moment-là le
monument aux héros de l'armée noire. Seulement, pendant que la France avait ses pépins avec l'Allemagne, la France occupée, les Allemands ont déboulonné le monument, ils ont voulu le ramener du côté de l'Allemagne, mais ce n'est pas arrivé parce que la puissance cérébrale et céleste des Africains était là. Et puis, au fond, le projet n'aboutissait pas, les associations ont tapé du poing sur la table, jusqu'à ce que, heureusement, qu'il y avait une doublure de ce monument qui se trouve du côté du Mali. Et on s'est inspiré de cette doublure pour refaire ce qui est aujourd'hui à Reims. Je cite vos auditrices et vos auditeurs de faire un jour un tour là-bas pour voir la beauté de cet édifice qui rend hommage à cette armée noire qui s'est dévouée pour la France et qui parfois souffrait depuis fort longtemps de l'ingratitude de la mère nation.
Alors, Alain Mabankou, dans l'actualité de la semaine, il y a aussi ce rapport qui a été remis tout à l'heure à Emmanuel Macron par une historienne de l'art française, Bénédicte Savoie, un philosophe et économiste sénégalais, Felwine Sarr, qui préconise de restituer aux pays africains une partie des œuvres d'art qui se trouvent ici dans les musées en France. Il y en a énormément. Et parmi les pays qui pourraient être intéressés par le retour de ces œuvres d'art, il y a le Sénégal. Je propose d'écouter ou de réécouter ce reportage qui est passé ce matin sur France Inter, reportage de William de Lesseux sur le futur musée des civilisations noires.
Amadi Bokoum, le directeur du musée, fait le tour des salles d'exposition.
Là, on n'a pas encore peint.
L'historien prépare l'ouverture du lieu dans 2 semaines avec une pièce manquante.
Bon, il y a des objets symboliques qu'on aurait bien aimé avoir, comme le sabre d'El Hadj Omar qui est actuellement au musée des Invalides.
Ce sabre, celui d'El Hadj Omar, fait partie du butin des militaires français au XIXe siècle. Comme d'autres objets, il devrait donc être restitué, suggère le rapport Sarr-Savoie, un rapport salué par Amadi Bokoum.
Quand on voit comment ces objets ont été récupérés, c'est sans des conditions de violence et de subordination absolue. À l'époque, quand on battait un chef africain, la première chose qu'on faisait, c'est de tout prendre. On allait même prendre les parures des femmes. On allait les arracher, on mettait ça dans des sacs, c'était vendu parfois aux enchères.
L'institution a signé une convention de prêt avec le musée du Quai Branly avant d'envisager la restitution de certains objets. 5000 au moins sont en France, d'après certains historiens sénégalais. Dakar, William de Lesseux, France Inter.
Voilà, et en tout, il y aurait quelques 90 000 œuvres d'art originaires d'Afrique subsaharienne dans les conditions publiques en France, beaucoup au musée du Quai Branly. Alain Mabankou, pensez quoi de ce retour éventuel?
Mais je pense que c'est très bien que la question soit posée, d'autant plus que je connais personnellement l'intégrité de Felwine Sarr, mon collègue Felwine Sarr, avec qui on a fait les ateliers de la pensée à Dakar. C'est que cette histoire de la restitution des œuvres d'art du continent noir cache quelque chose de plus grave aussi, parce que elles font partie des pages de l'histoire coloniale. Dans la mesure où on a toujours eu tendance à ne pas vouloir poser la question coloniale sur la table et qu'on n'a jamais défini la question coloniale, eh bien, les masques, les objets d'art finissent par parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en allant vers eux, c'est comme si nous découvrons une histoire. Évidemment, on va avoir des terminologies, ouais, des arbres, des objets d'art qui ont été pris, qui ont été emportés, qui ont été emmenés. Non, ils ont été pillés. Ils n'ont pas été pris avec une certaine conciliation. Donc, je pense aussi qu'il faut que nous ayons une attitude de responsabilité face à ce sujet qui montre que l'histoire de ces arts, c'est aussi la reconnaissance que le continent noir avait et a une grande civilisation. Si c'était des objets qui étaient ceux des barbares et des sauvages, pourquoi il y avait ces sortes de rapines? C'est que la civilisation était là et que la civilisation qu'on nous a imposée, c'est-à-dire la civilisation occidentale qui se croyait supérieure ou quoi, était simplement une civilisation autre que la nôtre. Et donc, par voie de conséquence, il nous faut désormais aussi parler de cette histoire coloniale.
Qui est
toujours tabou en France. Donc, même aller du côté des œuvres d'art pillées, c'est déjà se rendre compte que nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais il faut que nous les disions avec une certaine sérénité, avec une certaine patience. Il ne s'agit pas d'accuser les voleurs, il ne s'agit pas de prendre la posture de celui qui a été spolié, il s'agit de se dire, voilà, nous avons fait des errements ou des erreurs dans l'histoire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, de part et d'autre, qu'il n'y ait pas de quoi, que c'est la connaissance de l'histoire, le rapport Sarre-Savoie nous incite indirectement à relire notre histoire commune et surtout cette histoire coloniale qui est souvent cachée dans les caves de ceux qui ont fait les colonies jadis.
Et puis c'est aussi important pour l'accès à la culture, y compris en Afrique, Alain Mabankou. Ça, voilà. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous-même, et là j'en reviens... au livre dont on parlait tout à l'heure, vous avez découvert les livres à travers ceux que vous rapportait papa Roger de l'hôtel où il travaillait, Victory Palace.
Voilà.
Des San Antonio. C'est comme ça qu'Alain Mabankou a commencé à lire.
Ah ben, il faut jamais sous-estimer les. Moi, j'aime pas quand on dit littérature, roman de gare ou quoi. Moi, je lisais tout. Quand j'avais rien à lire, je lisais même les livres de mathématiques que je comprenais pas, parce qu'il fallait que je lise, et que les livres qui étaient devant moi, ben, c'était « Sang d'Afrique » de Guy Descartes, c'était « La révoltée » de Guy Descartes, c'était les bandes dessinées de Zembla. Tout cela forgeait quand même une certaine idée de l'environnement littéraire qui allait se faire par la suite. Je lisais Guy Descartes parce qu'ils avaient le sens de la psychologie rapide, ça se lisait vite. J'ai lisé San Antonio parce qu'il y avait les jeux de mots, les calembours que j'aimais. J'aimais bien les aventures de Berrurier, j'aimais bien tout ce qui se passait autour. Et après est venu le temps d'une lecture un peu sérieuse et laborieuse. C'est vrai que je n'avais pas le même plaisir qu'avec mes lectures un peu virevoltantes, mais c'est toujours ainsi. Je n'ai jamais sous-estimé une littérature, fût-elle populaire, parce que je sais que on a besoin un peu de manger de tout pour que l'organisme fonctionne bien.
Voilà, alors vous avez commencé à lire tout ce qui vous passait par la main, puis vous avez voulu devenir auteur de BD, vous avez commencé après par la poésie, vous êtes passé au roman, vous avez publié de nombreux livres, Vers Cassé, Mémoire de Porc-Épic, on en parlait tout à l'heure, Black Bazar, Demain j'aurai 20 ans, Lumière de Pointe-Noire, Petit Piment, vous faites aussi dans la musique, Alain Mabankou, je vais vous étiez guitariste, c'est ça?
Je joue de temps en temps, mais j'ai plus
Et vous
beaucoup,
produisez des disques,
j'ai
c'est
plus
ça
produit et écrit des textes pour le groupe Black Bazar.
Eh bien justement, on y va.
Korsi ke poda na mi Jangine kam jalia Kominuire dua jabi jeneba Du fin fond du Fouladou au Congo Brazza L'africaine école buissonnière des beaux-arts Et comme par hasard La chanson s'appelle Black Bazar Tu crois te lever le matin C'est le soleil qui se lève Laisse dans les vestiaires ton baratin, la vie c'est pas du rêve. Pour pas rater ton train de vie, fallait prendre le précédent. C'est une question de survie, que tu sois pour ou contre. Le temps c'est de l'argent comptant. L'homme inventa la montre, mais Dieu créa le temps. Justice blanche, misère noire, la bête noire c'est toi. C'est écrit noir sur blanc, long sera ton chemin de croix, et ta peau restera noire malgré ton masque blanc. Sorti droit de la black mafia, premier sur la blacklist, paumé dans le blackout, je joue au blackjack. J'écoute Paint in Black, les doigts sur le Blackberry. Je flingue le black cowboy, bien coiffé, bien rasé.
Sakuba, Sakuba,
bien coiffé.
Sakuba, Sakuba,
bien rasé.
Sakuba, Sakuba,
bien parfumé.
Sakuba, Sakuba,
costume sur des mesures.
Sénalo Ketu Yaya,
chaussures coco bien cirées.
Sénalo Ketu Yaya,
Merco Tumuka, cabriolet.
Sénalo Ketu Yaya,
Black Bazar.
Sénalo Ketu Yaya, Binangwa Suma,
Black Bazar.
Binangwa Suma,
bien parfumé. Costume sur des mesures, chaussures coco bien cirées. Merco Tumuka, cabriolet. Mes comptes bancaires à découvert. Jalia Djangin Take,
Sengalu Ketu Yaya,
Kojine Dikei Dinimi,
Sengalu Ketu Yaya,
Suleiman Diamanka pour vous servir.
Sengalu Ketu Yaya,
du fin fond du Fouladou au Congo Braza.
Sengalu Ketu Yaya,
l'africaine école buissonnière des beaux-arts.
Sengalu Ketu Yaya,
et comme par hasard, la chanson s'appelle Black Bazar. Black Bazar.
Suleiman Diamanka, un des artistes de l'album Black Bazar, produit par notre invité Alain Mabankou, un titre sélectionné pour France Inter par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Un petit mot de votre histoire à vous, Alain Mabankou, puisqu'il en est question dans beaucoup de vos livres, dans la plupart, notamment dans Les cigognes sont immortelles. Oui. Comme d'habitude, maman Pauline est là, cette maman qui ne savait ni lire ni écrire, qui vendait des arachides au marché de Pointe-Noire. Une fois de plus, vous la mettez en scène, c'est toujours pour essayer de la retrouver.
Je pense que c'est pour essayer de la retrouver parce que moi, je suis arrivé en France, j'avais 20, 21 ans, et une année plus tard, elle a disparu, donc je ne l'ai pas revue jusqu'à présent. Donc ma mère ne m'a jamais vu devenir écrivain. Elle m'a jamais vu écrire. Elle n'a jamais su qu'est-ce que peut-être elle voulait que je fasse des études de droit, que je devienne avocat pour lui acheter une table dans un marché de Pointe-Noire où elle vendrait tranquillement ses arachides. Vous voyez, ses ambitions étaient modestes. Donc j'étais venu en France dans l'espoir d'être avocat, d'acheter une licence à ma mère pour qu'elle vende
pour la défendre,
les bananes sur place. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, eh bien, sa figure s'est au fur et à mesure imposée. Mais en peignant cette femme, j'ai l'impression aussi de peindre la femme africaine telle qu'elle est, dans son courage, parfois dans ce qu'on peut croire comme un effacement. Mais ma mère était toujours présente. C'était elle qui portait le pantalon à la maison. D'un regard, il me chassait de la table avec mon père, aller écouter la radio au pied du manguier. Donc c'est un peu cela que j'essaie de montrer, une femme africaine volontaire, une femme africaine émancipée, alors qu'on nous a toujours présenté une femme africaine peau de fleurs posée à côté. Mais celle-là, c'était une femme
qui devait quand même partager Papa Roger avec une autre femme, Alain Mabankou. C'est aussi ça la réalité.
Mais disons que ma mère était la deuxième
donc, épouse.
Mon père, Papa Roger, qui est mon père adoptif, devenu mon père, qui avait déjà une femme.
Maman Martine,
et maman 8 Martine.
Enfants.
Et vous voyez, le monsieur, Papa Roger, passe dans le marché, voit une femme qui est en train de vendre des arachides avec un gamin qui a peut-être encore 2-3 ans, et bon, ils tombent amoureux, et puis ils décident de vivre ensemble. Donc, Papa Roger prend et la mère et l'enfant, et c'est comme ça qu'il va me lever, c'est comme ça qu'il va m'ouvrir à la littérature, c'est comme ça qu'il va prendre les livres de l'hôtel français Victory Palace de Madame Ginette qui se trouve dans le sud de la France et qu'il va donner à cet enfant pour que je lise au fur et à mesure et que je devienne un adulte parce qu'ils avaient toujours peur de se dire que si tu ne vas pas à l'école, peut-être que tu seras comme nous, tu finiras simplement à l'hôtel ou bien vendeur de pamplemousse au marché de Pointe-Noire.
une douleur, Alain Mabankou, dans votre histoire, c'est celle d'avoir été enfant unique.
Oui.
Ce qui n'est pas évident au Congo. Du coup, vous vous êtes inventé des sœurs par rapport aux camarades.
Oui.
Vous avez un rapport un peu particulier à la vérité de temps en temps. Quand
ah
même,
oui,
hein.
Non, mais je pense que c'est important. Quand vous êtes fils unique, au Congo-Brazzaville en particulier, où c'est considéré comme une richesse d'avoir plusieurs enfants, et que vos voisins, dans chaque famille, il y a au moins un minimum, ceux qui ont 8, on dit, mais il n'y a que 8, donc c'est 8, 10, 12, et moi je suis le seul à côté. Et quand je suis dans les quartiers, je suis vu comme cet enfant qui a fait du mal à sa mère. C'est-à-dire qu'en sortant du ventre de sa mère, il avait fermé à clé pour être le seul sur la terre, pour bénéficier de tout, pour avoir tous les jouets, pour avoir tout l'univers. Et quand vous allez à l'école, c'est la même chose. Les autres camarades sont en train de parler des problèmes avec leurs sœurs, avec leurs frères. Et moi, c'est à ces sens-là que j'ai peut-être commencé à être écrivain, puisque je m'inventais une sororité, j'inventais des sœurs. Je me disais que j'avais une sœur qui habitait quelque part. C'est pour ça que j'avais écrit un album pour la jeunesse qui s'appelle « Ma sœur étoile ». J'ai inventé cette sœur et je leur disais « mais elle est quelque part ». On me disait « où ?» En France. Et à cette époque-là, pour convaincre ses amis, j'ai rapporté à l'école le catalogue de Manu France dans lequel il y avait des petits-enfants. Et par hasard, il y avait une petite fille un peu métisse et noire. Je disais, voici ma sœur. Et comme elle était à côté d'une voiture rouge, je disais, c'est notre voiture rouge.
Alain Mabankou, dans ce livre, Les cigognes sont immortelles, on apprend plein de choses sur la vie quotidienne, mais je vais laisser les lecteurs découvrir, notamment l'épicerie au cas par cas, où les prix sont un peu à la tête du client, les maisons en attendant. Enfin, il y aurait des tas de choses à dire, mais je voudrais qu'on dise quand même un mot, peut-être de la situation du Congo-Brazzaville aujourd'hui, parce que ça me paraît important, et vous êtes devenu une des voix des opposants au régime de Denis Sassou Nguesso. Vous parlez au nom de tous ces jeunes qui vous ont écrit, qui vous ont demandé de parler de cette situation, de ce...
Disons que je ne me présente pas comme un opposant à tel ou quelque régime ou quoi, parce que le message que je porte est un message qui dépasse les gesticulations de la politique congolaise. Ce que je souhaite pour la jeunesse africaine, c'est plus de démocratie, plus de liberté d'expression. J'allais même dire plus, elle n'existe pas, cette liberté d'expression. Si on enlève certains pays africains qui font des efforts aujourd'hui pour être des pays dignes, mais il y a des problèmes dans le bassin du Congo, des incarcérations, des disparitions, des lycéens qui meurent dans l'indifférence totale. Nous sommes dans un temps où il y a la modernité dans le monde entier, mais vous avez comme un espace géographique qui s'appelle le bassin du Congo. C'est comme si on avait éteint la lumière. Et tout cela se passe sous l'indifférence parfois des politiques, de la plupart des politiciens français qui reçoivent ces mêmes dictateurs ici, en légitimant en quelque sorte la souffrance de ces jeunesses africaines, les mêmes jeunes auxquels on demande d'apprendre la langue française et de continuer à véhiculer le génie français, alors que le plus grand butin de la langue française, c'est cette liberté d'expression. C'est cette sorte de phare qui fait que dès que vous embrassez la langue française, vous rentrez dans un territoire de souffle, vous rentrez dans un territoire d'imaginaire. Et il y a un bloc d'Africains, ces jeunes Africaines et Africains, qui ne bénéficient pas de ce souffle de la langue française parce que, eh ben, ils sont ligotés, ils sont encagés dans des régimes jurassiques qui datent depuis les années 70, voire même depuis les indépendances.
Et puis qui sont occupés, trop fatigués pour se révolter, hein, parce que il faut gérer au quotidien les coupures d'eau, d'électricité et toute cette misère de votre pays. Vous avez raconté, hein, dans Lumière de Pointe-Noire, effectivement, l'état dans lequel le pays est aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, Alain Mabankou, de l'accès à la culture. Et ben, on va y revenir maintenant grâce à notre rubrique Les Bonnes Ondes. Les Bonnes Ondes, qui sont signés exceptionnellement ce soir Stéphane Capron. Il s'est rendu dans le quartier de la Source, à Orléans, un quartier éloigné des structures culturelles du centre-ville, même s'il y a le tram. Alors des musiciens ont décidé de sillonner le secteur à bord d'un bus transformé en opéra pour y donner des concerts de musique ancienne, une initiative de l'ensemble La Rêveuse.
Bonjour.
Bonjour.
Rachel Conseil, l'enseignante de CM2, mes élèves.
Merci.
Alors, il se pose plein de questions. Est-ce que ça va être comme du doré, comme dans l'Opéra Garnier? Est-ce qu'on a regardé s'il y aura des beaux fauteuils rouges?
De l'extérieur, ce bus opéra ressemble à un bus de transport scolaire. Et pourtant, à l'intérieur, c'est un petit palais Garnier qui attend les élèves de CM2.
Allez, quand on va à l'opéra et au théâtre, on doit avoir son ticket d'entrée. Alors, vous allez voir, après, on va vous enlever une partie, le talon. Il faudra le garder pour le mettre dans notre cahier d'écrivain.
Ah ouais, c'est joli.
Il y a plein de doré, il y a du doré.
Tout le monde est bien installé.
Je m'enlève ça. Enlevez vos manteaux, il fait chaud dans le
bon spectacle.
Merci. 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 Moi, je suis elle. Moi, je suis elle.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous avez déjà vu tout à l'heure. Vous savez peut-être comment on s'appelle?
Florence.
Benjamin.
Alors, Benjamin, c'est?
Lui.
Lui.
Voilà. Et moi, je suis Florence. Et alors, qu'est-ce qu'il joue, Benjamin?
Du théâtre.
Et du luth. Vous allez voir ses instruments tout à l'heure. Et moi, je joue de la...
Viole de gambe.
Voilà. Alors, vous allez peut-être me dire, puisque vous avez l'air de savoir plein de choses, quand est-ce que sont nés ces instruments qu'on va vous montrer aujourd'hui?
À la Renaissance.
Ils sont nés à la Renaissance, mais est-ce que ça veut dire qu'avant la Renaissance, il n'y avait pas d'instruments et on n'écoutait pas de musique?
Si, mais pas ces instruments-là.
Pas ces instruments-là. Et alors, l'histoire de la musique, ça remonte à les premiers instruments qu'on fabrique.
Moyen-Âge.
Préhistoire.
Oui, la préhistoire, hein, le début. Quand l'homme est apparu, comme par hasard, les instruments sont apparus aussi. Ça veut dire que l'homme, il a toujours eu besoin de musique. Vous êtes d'accord?
Oui. Hein?
Moi, j'aime bien la musique classique.
C'était un style que je connaissais pas au départ. C'était plutôt bien.
Moi, j'aimais bien les instruments parce que il y avait les bruits, il était bien et tout. Il était joli.
Moi, j'ai aimé la décoration de l'opéra bus, c'était beau.
C'était un style de musique que je connaissais pas très 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 bien. Mais après tout, on est là pour apprendre, non?
Apprendre dès le plus jeune âge, s'initier à une culture qui semble éloignée, c'est le programme éducatif mis sur pied par Florence Bolton et Benjamin Perrault. Ils dirigent l'ensemble de musique ancienne La Rêveuse. Le plus souvent, ils jouent devant un public d'initiés. Mais quand ils ont eu connaissance de l'existence de ce bus opéra, concept né dans la région Hauts-de-France, ils ont décidé de le balader chez eux dans la région Centre-Val-de-Loire.
On va en milieu rural, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'opéra. Enfin, pour eux, c'est magique aussi parce que c'est un monde un peu inaccessible pour certaines personnes. Donc voilà, ça va leur donner une joie immense d'avoir l'impression d'être à l'opéra.
En fait, la culture et l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire de la société de demain. Et il faut vraiment prendre soin de tout ça, en particulier dès l'école primaire. Parce que là, on voit avec ce genre d'expérience que les enfants s'en souviendront longtemps, si ce n'est pas toute leur vie. Et ça nous touche beaucoup.
Le groupe scolaire Pauline Kergomar est situé en zone d'éducation prioritaire. Sans la volonté et la ténacité des enseignants, comme Rachel conseille, les enfants n'auraient pas accès à la culture.
C'est agréable parce que bon, on est quand même en ZEP. Donc on amène la culture entièrement, parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Et ils retiennent tout. En fait, c'est important de vivre l'histoire. Ils vont au théâtre, mais avec nous. Ils sont toujours partants pour aller au musée. Les parents sont les premiers à nous donner des idées ou avoir envie qu'on le fasse. Mais ils ont beaucoup de mal à sortir, même aller sur Orléans Centre. Quand je fais Jeanne d'Arc et qu'on va faire la visite de la cathédrale, il n'y a jamais aucun souci, même si on a une grande majorité de musulmans, on pourrait y avoir des problèmes religieux. Jamais. Ils sont vraiment les premiers à nous dire que c'est super, mais c'est compliqué d'amener quand même à l'extérieur. On va se faire une petite photo pour notre blog devant l'Opéra Bus. Ça marche? Allez, venez. À trois, on dit Opéra Bus. 1, 2, 3.
Opéra Bus!
Génial!
Opéra Bus, un reportage signé Stéphane Capron, ce soir pour les bonnes ondes de France Inter. Alain Maboncou, dans ce livre, Les cigognes sont immortelles. Très souvent, on entend les adultes qui disent, mais Michel, tu rêves, arrête de rêver. Vous étiez vraiment comme ça quand vous étiez petit?
J'étais très rêveur. Je pense que c'est peut-être ça, on aura le temps de le dire dans le téléphone.
Le téléphone sonne tout à l'heure sur la question de l'écriture.
Le rêve est essentiel pour devenir un écrivain. Je pense que l'écrivain, c'est celui qui continue à se rappeler ses rêves d'enfance. Et le rêve d'enfance, c'est un territoire d'inspiration insondable. Si je suis devenu écrivain, c'est parce que j'ai su préserver cette sorte de virginité de ses souvenirs. Moi, j'ai été longtemps rêveur. J'étais dans la classe, au lieu de suivre ce qui se passait, je regardais plutôt l'oiseau qui se posait sur un arbre à côté de la fenêtre. J'étais jamais parfois à l'heure, mais j'ai révisé vite.
Bon, ça, c'est un petit peu aussi le Congo. Mais, hein,
j'étais un rêveur qui se souvenait de ses rêves. Ça, c'est très important.
Très important.
Parce que quand vous devez écrire, il faut vous souvenir de vos personnages. Il faut que vous sachiez la couleur que portait votre papa il y a 40 ans et que ça revienne, et même le parfum. C'est ça, le rêve. Le rêve est important, c'est pas de moi. Jean Cocteau le dit, hein. Un enfant qui ne rêve pas est un monstre.
Alain Mabankou, vous êtes donc en tournée en ce moment en France pour ce livre. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez aux États-Unis ou vous enseignez là, à Los Angeles ?
Je commence les cours de littérature française le 7 janvier à l'Université de Californie, Los Angeles. Effectivement, je vais avoir une nouvelle classe avec 40 étudiants américains qui vont étudier les courants littéraires français, voilà, le surréalisme.
Donc ça, tout ça, réalisme. Ça se passe en français ?
Ah oui, ça se passe en français. C'est pour cela que la défense de la francophonie, ce n'est pas forcément dans les pays francophones. Il faut conquérir les pays francophiles. Moi, depuis dix ans, j'enseigne. J'ai enseigné pendant 4 ans en anglais et depuis 10 ans, j'enseigne en français aux Américains qui apprennent la littérature directement en français parce que nous les envoyons dans les pays, même en France, on en envoie à Aix-en-Provence, on en envoie à Grenoble, on en envoie jusqu'à Madagascar pour rester une année, peaufiner la langue française et quand ils reviennent, ils sont à même de suivre le cours
en
français.
Donc en fait, vous êtes un ambassadeur de la langue française, il n'y avait pas besoin de vous confier cette mission officielle concernant la francophonie, qu'on voulait vous confier.
Je ne le fais pas pour attendre une quelconque rétribution, je le fais parce que je sais que la puissance de la langue française est plus forte que les caquettements de tous ceux qui nous donnent de la morale quand il s'agit de défendre la nation française.
Un grand merci pour cette première heure, Alain Mabankou. Je rappelle le titre donc de votre dernier roman, Les cigognes sont immortelles. C'est au seuil. Est-ce qu'il y aura une suite ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'écris.
Fin, là, bon, on va rien dire, mais bon.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, que j'écrirai un prochain roman.
Bon, ça nous rassure. Vous serez aussi tout ce week-end ici même à la fête du livre à la maison de la radio Alain Mabankou. De toute façon, vous restez avec nous pour le téléphone sonne après le journal de 19h puisque vous l'avez dit, on s'intéressera à l'écriture et plus précisément à l'apprentissage de l'écriture avec cette question, est-ce qu'on peut apprendre à écrire des livres ? On s'intéressera notamment aux ateliers d'écriture pour le grand public. Vous-même, vous donnez des cours comment on dit en anglais ?
Creative writing.
Voilà, création littéraire, on va dire en français. Voilà, si vous souhaitez participer, vous tous, à cette émission, vous nous appelez au 01 45 24 7000. Si vous êtes trop timide pour appeler, vous laissez un message sur franceinter.fr.